Bonjour à toutes et à tous, Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte où le sommeil, le rêve, les amours et les amitiés vont, je l'espère, vous tenir éveillés et prêts à voyager dans le temps, l'art et l'espace. Un voyage qui commence par une très belle invitation au voyage justement de Nicolas Martin, peintre et critique d'art, qui nous propose chaque mois sa chronique « Arguments ». Aujourd'hui, Nicolas nous présente le peintre norvégien Christian Krohg et l'exposition que lui consacre ce printemps, le musée d'Orsay.
Mère et enfant, Christian Krohg. Le cadre est modeste et dénudé. Une jeune femme, une jeune mère est endormie, assise sur une chaise, le visage partiellement enfoui dans un oreiller posé sur ce qui semble être un lit. Vigilante, jusque dans ce sommeil, sa main gauche tient encore le petit berceau à bascule dans lequel est allongé un bébé. La position peu confortable et la bouche entrouverte de cette jeune femme indiquent une fatigue extrême, celle d'une mère dévouée mais exténuée, ayant sombré dans un profond sommeil malgré elle. La lumière crue et blanchâtre suggère le petit jour naissant. La réalisation du tableau est directe, sans volonté de théâtraliser l'instant. C'est une peinture qui dit une réalité, sans détour. La composition est construite autour d'une diagonale, marquée par la posture de la mère, qui relie son corps fatigué à l'enfant couché dans son berceau. L'espace confiné crée une atmosphère intime, et souligne les conditions modestes du foyer. La palette est sobre, dominée par des tons froids et terreux. La lumière douce vient de la gauche, mettant en valeur les visages et accentuant la fatigue de la mère. Krohg utilise une touche fluide et expressive, avec les textures variées des draps froissés, du bois du berceau et de l'étoffe du vêtement. Autre scène, 1880, titre du tableau, La couturière, où, fatiguée. Une très jeune femme, les bras ballants, est endormie, affaissée sur sa chaise, devant sa machine à coudre. L'ouvrage qui l'occupait juste avant que le sommeil ne la saisisse tombe en partie au sol. La lumière naturelle venant de la fenêtre contraste avec la lampe à pétrole posée sur la table, qui lui a permis de travailler jusque tard dans la nuit. Nous sommes donc ici, comme dans le tableau précédent au petit matin, dans l'intimité d'une femme, elle aussi épuisée. Dans le panorama artistique du XIXe siècle, où l'impressionnisme et le symbolisme captivent le regard par leur lumière et leur poésie, Christian Krohg se distingue par une approche radicalement différente. Un réalisme brut, sans artifice, au service d'une critique sociale engagée. Peintre, écrivain et homme politique, il fait de son art un témoin des injustices de son temps qui reflète une Norvège en pleine mutation industrielle, où les classes populaires peinent à suivre le rythme du progrès. Parmi les thèmes récurrents que l'artiste met en scène, celui de la fatigue des travailleurs s'impose largement dans son œuvre. Des corps affaissés, des visages alourdis par l'épuisement, des figures solitaires abandonnées au sommeil saisies par celui-ci. Ainsi se dessine la réalité implacable des ouvriers et des domestiques. Il capture ces instants où l'épuisement devient plus fort que la volonté, où le repos s'impose comme une nécessité plutôt qu'un choix. Ce réalisme social n'est pas qu'une simple transcription du réel. Il est un acte de dénonciation, car Krohg ne peint pas la fatigue comme un sujet esthétique, mais davantage comme un symptôme social, celui d'une classe laborieuse, broyée par de dures conditions de travail. Son approche rappelle celle de Gustave Courbet ou de Jean-François Millet, mais avec une proximité probablement encore plus présente avec ses modèles, souvent rencontrés dans les quartiers populaires d'Oslo. Ne se contentant pas de peindre cette misère silencieuse, il la porte également sur la scène publique, poursuivant son combat à travers la littérature et la politique. Son roman, Albertine, en 1886, raconte l'histoire d'une jeune femme contrainte à la prostitution par la misère. Il provoque un scandale en Norvège et est rapidement censuré. Cet ouvrage, qui s'inscrit dans le courant naturaliste, met en lumière l'hypocrisie de la société bourgeoise et la précarité des femmes, renforçant par conséquent le débat sur les réformes sociales. Il en fera le tableau quelques années plus tard. Cet engagement se prolonge aussi dans la presse, où il écrit régulièrement des articles dénonçant les inégalités sociales. En tant que professeur et directeur de l'Académie des Beaux-Arts d'Oslo, il encourage une nouvelle génération d'artistes à explorer des thématiques engagées et à ne pas se limiter à la beauté pour dire quelque chose du monde. Dans un mouvement plus large, dépassant le cas scandinave, il ne fut pas le seul à adopter une approche réaliste pour mettre en lumière la condition des classes populaires et accompagner les revendications sociales féministes de ces dernières. Millet, Bastien Lepage, Kollwitz, Répine, Zorn, eux aussi s'engagèrent à travers l'Europe, en Allemagne, en Russie et en France. Ainsi, Christian Krug appartient-il à ces artistes pour qui l'art ne se limite pas à une quête formelle mais devient un instrument de transformation sociale. En montrant la fatigue des ouvriers, il ne peint pas seulement un état physique, mais l'oppression d'un système. En écrivant Albertine, il ne raconte pas seulement une histoire, il force la société à regarder ce qu'elle préfère ignorer. Edvard Munch, qui fut son élève, dira de lui qu'il était « le seul peintre capable de descendre de son trône et d'éprouver de la compassion sincère pour ses modèles ». Le travail de Christian Krug s'expose au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet pour cette première rétrospective du peintre norvégien en dehors de la Scandinavie. À bientôt dans Argument.
Merci Nicolas, merci pour cette somptueuse chronique consacré au peintre norvégien Christian Krug et à l'exposition qui lui est donc consacrée au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet. Une expo où l'on pourra retrouver en particulier son tableau « Mère et enfant » dont tu viens, Nicolas, de nous présenter l'histoire. Eh bien, on va écouter une chanson en belle harmonie avec ce dévouement et cette plénitude qui se dégage de cette toile de Christian Krug. Une chanson qui s'intitule « Une mère » interprétée par Linda Lemay en 2006.
Une mère, travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, ça te garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits, c'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue. Ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège.
Dans sa chronique consacrée au peintre norvégien Christian Krug et à l'exposition qui lui est donc consacrée au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet, Nicolas Martin nous a également raconté au début de ce rendez-vous compte l'histoire de la couturière fatiguée. Une jeune femme épuisée par son labeur et endormie devant sa machine à coudre. Eh bien, je vous renvoie à notre émission du 23 janvier où Claude Trac, secrétaire de l'association Art Rencontre d'Aubonne, nous a raconté la vie de sa propre mère, couturière à Paris, au début du XXe siècle. Et donc Claude Trac a utilisé les patrons et les aiguilles pour lui redonner vie lors de son exposition d'octobre 2024 à la Galerie de Mézières au centre d'Aubonne. Extrait de cette émission à retrouver intégralement en podcast, évidemment, sur le site d'IDFM. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre mère? Elle était couturière à son compte, elle travaillait à domicile.
Oui, comme je vous disais tout à l'heure, elle n'avait pas de patron. Oui. Elle avait une société de couture. Elle faisait ses propres patrons, ses propres modèles, qu'elle vendait après pour être vendue dans des boutiques. Et puis, elle avait ses propres clientes aussi.
D'accord, donc c'était vraiment une petite PME.
C'est ça. D'accord. Une petite PME. Elle avait une boutique à Paris, d'abord à Montmartre et après du quartier de l'Opéra et pour finir dans le 17e.
D'accord, donc une vraie Parisienne.
Une vraie Parisienne.
Et vous aussi, vous avez été parisienne à cette époque ?
J'étais parisienne aussi.
D'accord. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission du 23 janvier avec Claude Trac en podcast, évidemment, sur le site d'IDFM. Et de fil en aiguille, on va écouter maintenant une très belle chanson de Damien Seize de 2012 intitulée, devinez, Ma petite couturière.
Ma petite couturière, elle est pas haute couture. Il faut voir quand elle court. Désolé, mon cœur, ma petite couturière, elle connaît les mesures de mon cœur est perdu. Là, dans la fourmilière, des trous dans les tricots et les bas qui s'effilent. Au fil du temps, tu vois, passer sur la machine, fini les travailleuses, bonjour les plasticiens. L'heure est aux dépensières, aux abeilles en guépière. Faut jeter les bobines, oui le film est fini. Du temps des gabardines.
Dans sa chronique consacrée au début de ce rendez-vous compte au peintre norvégien Christian Krohg, Nicolas Martin a décrit et commenté le tableau intitulé « Mère et enfant ». Une toile qui souligne le premier lien essentiel et définitif entre une mère et son enfant, même si tous deux sont endormis. Eh bien, j'aimerais poursuivre avec vous cette atmosphère, disons, de bienveillance et d'amour. Comment ? En vous faisant entendre un poème écrit et enregistré par Julia, une lycéenne de seconde qui témoigne, quant à elle, de l'importance à ses yeux d'un autre lien familial, celui d'un grand frère protecteur et rassurant.
Un grand frère, c'est comme un parapluie. Il est là pour me protéger du mal. Même dans les bons moments, il sera toujours ouvert à moi. Et chaque fois que je voudrais aller vers lui, il me mettra à l'abri.
Amour maternel, comme dans le tableau de Christian Krohg intitulé « Mère-enfant », ou amour fraternel, comme dans la poésie mise si joliment en voix par Julia, des sentiments et émotions originelles, complétés souvent par un autre attachement, parfois aussi puissant et durable, l'amitié. L'amitié racontée par Charline, une autre lycéenne de 15 ans.
L'amitié. L'amitié, c'est une corde qui ne rompt jamais. L'amitié, c'est un lien inexplicable entre deux personnes. L'amitié ne blesse pas, elle ne trahit pas. L'amitié est pure comme la nature. L'amitié, c'est s'assurer que l'autre va réussir et qu'il ne baisse pas les bras. Mais c'est aussi un des plus gros chagrins que de perdre un ami. L'amitié, c'est un cercle vicieux et possiblement toxique. L'amitié, c'est aimer et accepter d'être aidé. L'amitié nous sort des cauchemars et nous aide à nous relever. L'amitié, c'est des crampes au ventre à force de rire. Enfin bref, l'amitié peut aider, pousser vers le haut. Et quand elle s'en va, c'est le choc qui nous détruira. L'amitié, c'est être le bouclier quand l'autre se prend des flèches. L'amitié, pour finir, c'est accepter de dire au revoir aux meilleurs souvenirs.
Amour maternel, comme dans le tableau de Christian Krohg, mère et enfant. Amour fraternel, comme dans la poésie de Julia. Amitié, racontée par Charline, oui. Ce sont bien des sentiments et émotions universelles, tout comme l'amour, bien sûr, même à 14 ans, comme nous le confient successivement Margot, Elias et David.
L'amour à 14 ans est un vent très léger. On cherche de l'affection au fond des regards, et chaque mot d'amour est une belle œuvre d'art qui souffle dans nos vies, parfois tout en beauté. Les cœurs sont grands ouverts, prêts à tout découvrir. Mais parfois l'amour fait mal, fait tout chavirer, puis se fait plus fort pour mieux nous éclairer. Dans la douceur du jour, on rêve de s'épanouir. Les espoirs s'entrelacent et grandissent sans fin, comme une douce flamme qui suit nos chemins, puis les doutes s'effacent, laissant place à l'envie de vivre cet amour comme une douce magie. Les étoiles nous murmurent des mots d'infini. Et l'amour, comme un rêve, jamais ne s'enfuit.
Je te pense, je te sens, je te vois, et mon cœur te prend dans ses bras. Lorsque nos regards se croisent, c'est ton âme que je perçois. J'apprécie le peu de ta présence. Mon âme se meurt dans ton absence.
Chaque soir, j'espère te revoir. Sans toi, je tombe dans le désespoir. Nous sommes comme Adam et Ève, même si nos amours sont encore brèves.
J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés, quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquine carmélite. Il y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour.
Nous sommes toujours bien sûr IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré à l'art, avec la chronique que notre chroniqueur Nicolas Martin a consacrée au peintre norvégien Christian Krohg, en particulier à deux de ses toiles, la couturière fatiguée mère et l'enfant. L'évocation de ces liens entre une mère et son enfant nous a fait tendrement dériver jusqu'aux liens fraternels ou amicaux, amoureux aussi. L'amour qui donne le vertige, comme le chantait à l'instant Bachung. L'amour à l'origine parfois de nos plus doux souvenirs que le temps sanctifie, transforme ou parfois efface. Et pourtant, les souvenirs sont faits pour être vécus et non retenus, comme nous le rappelle avec beaucoup de sagesse une autre jeune fille, Louane.
On croit pouvoir l'arrêter et le devancer, mais il ne fait que nous heurter à la réalité. Le temps, ami de nos souvenirs et ennemi de la vie. Il passe sans s'arrêter, mais en laisse une trace. Les souvenirs. Précis et flou à la fois, il est parfois difficile de s'y remémorer les instants passés. La peur d'oublier une odeur, un geste, un détail, car au fond, s'accrocher aux souvenirs nous permet de nous sentir vivants et humains. Mais trop y réfléchir nous en fait perdre l'essentiel. Les souvenirs sont faits pour être vécus et non retenus. Le temps avance, déroulant progressivement notre vie et formant des souvenirs qui demeureront éternellement le fruit de notre imagination.
Mais les souvenirs, la mémoire, ne nous appartiennent pas forcément, comme la vie et la pluie. Ils passent de génération en génération. C'est en tout cas ce qu'affirme Roxane dans son poème « Éternel recommencement ».
La vie est comme la pluie. Elle commence sans prévenir et finit aussi vite. Cependant, la vie n'est rien sans épreuve. Le soleil apparaît, ce qui réduit la pluie et crée un arc-en-ciel éblouissant. Lorsque la pluie tombe au sol, elle glisse et se retrouve dans un fleuve. Ce fleuve qui finit par se jeter dans la mer, qui, comme la mémoire, passe de génération en génération.
Éternel recommencement également, le désir de liberté de l'être humain qui se heurte aux barrières du monde, comme le dit si joliment Iliès.
La vie, c'est une quête de liberté, un combat contre des murs invisibles qui nous enferment. Certains acceptent ces frontières, s'y résignent comme des oiseaux en cage. Mais d'autres, le regard tourné vers l'horizon, sentent le vent et la mer leur murmurer un appel. Alors ils se heurtent encore et encore aux barrières du monde. Et quand enfin la pierre cède, quand le ciel s'ouvre devant eux, ils comprennent que la liberté est une conquête.
Alors, si l'être humain se heurte aux barrières du monde, comme vient de nous le dire Iliès, eh bien, il lui reste la liberté de rêver, la liberté d'imaginer, de pouvoir voyager et d'échapper ainsi à ces difficiles conditions de vie, comme ce fut le cas pour les deux femmes des classes populaires qui ont servi de modèle à Christian Krohg, ou celle qu'il a décrite dans son roman Albertine. Liberté de s'échapper en rêvant de voyage, comme celui évoqué par Manon, rendez-vous compte.
Voyage, sous le ciel éclatant, où dansent les oiseaux. Le sable doux s'endort sous mes pas insouciants. La mer, temple profond aux reflets scintillants, épouse tendrement le chant clair des roseaux. Les montagnes, au loin, s'habillent de lumière. Le vent, d'un souffle pur, caresse les souvenirs. Le vent dans les pins me raconte des secrets. Et l'aube fait briller la mer comme une pierre. Les oiseaux volent autour de moi, ils ont l'air légers. Le vent, présent avec moi, commence à siffloter doucement vers la jolie rivière. Profitez, il va falloir finir la valise, avant qu'arrive la saison des camélias. C'est ainsi que mon petit voyage est fini.
Alors, si l'être humain se heurte aux barrières du monde, comme nous l'a dit si bien Iliès, il lui reste la liberté de rêver, de voyager, comme Manon, et même, pourquoi pas, d'échapper à sa condition pour devenir l'un de ces astres qu'il aime contempler depuis la nuit des temps. Une histoire délicatement racontée par Jade et Amrine.
Si j'étais un astre, je serais le soleil, brillant si puissamment que j'éclairerais une galaxie entière. Je donnerais de la lumière à tous les êtres vagabondants dans l'immensité de l'univers. Je donnerais de la lumière à toi, la lune, si belle et mystérieuse au loin dans le ciel. Je veux pouvoir t'éclairer, toi aussi, toi qui m'intrigues à chaque fois que je te croise, comme la lune me fascine dès lors qu'elle apparaît dans une nuit étoilée.
Comme la lune, autour de la Terre, ou la Terre, autour du Soleil, tu gravites en permanence autour de mon cœur. Je veux pouvoir t'étreindre, te prendre dans mes bras, te garder près de moi, jusqu'à ce que notre univers s'écroule. Mais tu sais, la lune et le Soleil ne se rencontrent jamais. Ils sont destinés à vivre séparément, regardant l'autre briller au loin. Alors, mon amour, voilà ma seule et unique réponse. Laissons nos destinées s'entrecroiser, donnons vie à notre éclipse.
Le spleen depuis des années, je sais pas guérir ce comment. Pourtant j'ai tout essayé, je suis le meilleur pour faire semblant. Je parle à la lune depuis gamin, la belle m'a jamais répondu. Je l'ai même dessiné sur ma main pour ne pas la perdre de vue. Enfant de la lune, c'est mal mon frérot. Prête-moi ta plume pour écrire mes mots. Ça y est, j'ai des tubes, mais je repars à zéro. Prête-moi ta plume pour revenir en solo. Gens qui pensent me connaître, alors que moi-même je sais pas. J'ai fait comme j'ai pu sans peut-être, avec des pleurs dans la voix. J'suis l'épine et la rose, c'est trop épineux. L'effet et la cause, j'suis nul et puis mieux. La rime et la prose, ou un peu des deux. Souffler sur la dose pour faire deux, trois vœux. Enfant de la lune, mon frérot, prête-moi ta plume pour écrire mes mots.
Et si bien plus que d'être le soleil, comme Jade et Amrine, ou à l'enfant de la lune, comme l'a chanté à l'instant Slimane, si notre corps et notre esprit se désagrégeaient en particules de poussière, en matière sans consistance, racontant pourtant des histoires et vibrant au cœur d'un enfant de tous les âges. Expérience d'autant plus troublante qu'elle est vécue et racontée à distance par Estelle et Louane, qui ne se connaissent pas et qui ont enregistré ce texte d'Estelle, chacune de leur côté, comme un écho de leurs personnalités respectives, qui ont bien des points communs.
Un corps rigide, un corps souple.
Un corps rigide,
un corps solide.
Un corps souple, un corps solide.
Un corps de douleur,
un corps de douleur.
Un corps mental,
un corps mental.
Deux bras trop importants.
Deux bras trop importants.
Deux jambes trop grandes.
Deux jambes trop grandes.
Ça prend de la place.
Ça prend de la place.
Je ferme les yeux et je m'estompe.
Ferme les yeux et je m'estompe.
Je commence par m'évaporer.
Je commence par m'évaporer.
Cellule par cellule.
Cellule par cellule.
Elle se libère dans l'air.
Elle se libère dans l'air.
Particules microscopiques.
Particules microscopiques.
Ma peau se désagrège.
Ma peau se désagrège.
Plus de beige.
Plus de beige.
De rouge.
De rouge.
De violet.
De violet.
Tout devient
fumé. Tout devient fumé.
Plus de corps.
Plus de corps.
Plus de forme.
Plus de forme.
De retenue.
Je.
Non, maintenant ça. Ça s'envole tout seul.
Ça s'envole tout seul, guidé par,
guidé
le,
par
vent.
Le vent.
Ça masse de temps en
ça
temps.
Ça masse de temps en temps.
S'éparpille en petits moutons et s'agglomère en cumulus.
S'éparpille en petits moutons et s'agglomère en cumulus.
Ça n'existe que dans un ensemble.
Ça n'existe que dans un ensemble.
Une réunion d'amas.
Une réunion d'amas de poussière. Ça forme les vergetures du ciel, les plumes légères.
Ça forme les vergetures du ciel,
les stries aléatoires.
Les stries aléatoires.
Ça forme les futures menaces.
Ça forme les futures menaces et les plus beaux spectacles.
Ça prend des couleurs et ça raconte des histoires.
Ça prend des couleurs. et ça raconte des histoires.
Une matière sans,
des reliefs,
sans
volume,
des nuances sans couleur. Ça vibre au creux d'un cœur d'enfant,
de tous les âges.
À quoi rêve-t-elle, cette mère assoupie près de son enfant, ou cette couturière fatiguée? Les deux femmes endormies, peintes par Christian Krog à la fin du 19e, et dont Nicolas Martin nous a raconté l'histoire au début de ce rendez-vous compte, à quoi rêve-t-elle? À la chaleur d'un grand frère protecteur, à l'amitié parfois fragile, à l'amour exaltant et douloureux, au temps et aux souvenirs qui passent, mais se transmettent aux générations futures? Rêve-t-elle à cette quête incessante de liberté de l'être humain, qui s'imagine parfois soleil éclairant l'univers, ou particules élémentaires perdues dans l'espace, comme nous l'ont confié tour à tour nos lycéens poètes, ou Slimane avec sa chanson « Enfant de la Lune », parue dans son album « Chronique d'un Cupidon » en 2022. Ouais. À quoi rêvent-elles ces deux femmes endormies? Nul ne le saura jamais, mais quand elles se réveilleront, quelque part dans leur Norvège natale, celle aussi du peintre Christian Krog, ce sera peut-être encore l'hiver, cette si longue saison où le vent souffle sur les vastes champs de neige, mais où les fleurs renaissent toujours, comme nous le rappelle Mona.
L'hiver, le vent souffle fort sur les vastes champs de neige, et les arbres démunis semblent alors dans leur vie. Le ciel est gris, tout autour semble très petit. L'hiver est là, sans aucun bruit. Les rivières sont gelées, sans un moindre bruit. La terre est blanche, tout est figé et très calme. Le froid autour de l'arbre devient très pâle. Le monde est endormi sous un grand cri d'hibou. Mais un jour, le soleil reviendra toujours chaud. Il fera alors fondre la glace restée. Les fleurs reviendront et tout sera alors beau. Mais viendra bien le temps d'un renouveau. Même l'hiver finit par laisser place. Dans cette saison résonnent les chants des oiseaux.
À quoi rêvent-elles ces deux femmes endormies, cette mère à l'enfant et cette couturière fatiguée, peinte par Christian Krog, et que nous a présenté Nicolas Martin au début de ce rendez-vous compte? Nul ne le saura jamais. Le savent-elles elles-mêmes? Car, comme chacun d'entre nous, ne sont-elles pas le doute caché dans une certitude? On retrouve une dernière fois Mona pour cette leçon de philosophie et de modestie.
Je suis la clarté dans l'obscurité. Je suis le silence à l'intérieur d'un mensonge. Je suis l'aiguille des secondes dans le temps. Je suis la lune dans un jour clairvoyant. Je suis l'image de la bonté. Je suis la poussière effacée par la brise. Je suis l'ombre portée par un rêve abandonné. Je suis le doute caché dans une certitude. Je suis le doute caché dans une certitude.
C'est sur ces paroles de sagesse que notre émission se termine. Un rendez-vous compte artistique, onirique et philosophique. Merci à Nicolas Martin qui nous a proposé comme chaque mois sa chronique Argument. Merci à Madame Claude Trac de l'association À Rencontre d'Aubonne. Et bien sûr, merci à tous ces élèves poètes du lycée Notre-Dame de Burine Margency, Julia, Charline, Margot, Elias, David, Louane, Roxane, Iliès, Manon, Mona, Jade et Amrine. Sans oublier une mention spéciale à Estelle, l'étoile perdue qui écrit si bien. Quelques annonces et rappels pour terminer. Ne manquez pas l'exposition des œuvres maxi-réalistes de notre ami Dan Jacobson au château de Grouchy à Osny, près de Pontoise, jusqu'au 27 avril. À voir également absolument l'exposition Âme animale au musée d'Aubigny à Auvers-sur-Oise avec les multiples représentations de chats et de chouettes par les peintres Corneille, Fujita ou bien encore Jean Cocteau, mais en particulier les œuvres stupéfiantes de l'artiste japonais Koji Ikuta, maître de la technique de la manière noire. À voir au musée d'Aubigny à Auvers-sur-Oise jusqu'au 21 septembre. Nous recevrons d'ailleurs prochainement Madame Agnès Aulnier-Chemin, directrice du musée d'Aubigny, qui nous présentera l'exposition plus en détail, ainsi que les nombreuses activités pour adultes et enfants en lien avec cette expo. Enfin, découvrir les estampes auveroises du 23 mai au 8 juin 2025. 20 artistes graveurs de réputation nationale et internationale présenteront leurs œuvres à la Maison Rose de Valran, à Auvers-sur-Oise également, dont nous recevrons prochainement le propriétaire, Ulrich Martin, qui nous présentera l'histoire hors du commun de cette maison, ainsi que toutes les initiatives artistiques de la saison. Sans oublier, bien sûr, la première rétrospective consacrée au peintre norvégien Christian Krohg, en dehors de la Scandinavie, au musée d'Orsay jusqu'au 27 juillet. Christian Krohg, que nous a présenté au début de ce rendez-vous compte, notre chroniqueur Nicolas Martin. C'était Didier sur IDFM. À la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de Rendez-vous compte sur IDFM, évidemment.